France Inter.
Aujourd'hui, intelligence artificielle, histoire d'une dépossession racontée par
Éric Sadin, philosophe et spécialiste des technologies numériques et de l'intelligence artificielle.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a 3 ans, tout juste, le 30 novembre 2022, lors du lancement de ChatGPT, a été franchi un seuil inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, pour la première fois, une intelligence artificielle a pris place dans l'espace même où nous pensions être seuls, celui de la pensée formulée, du langage construit, de la création instantanée. Rien n'a changé en apparence et pourtant tout s'est déplacé. En quelques heures, des millions de personnes ont découvert qu'il suffisait d'écrire quelques mots pour qu'une machine réponde, argumente, imagine, comme si une réserve infinie de langage venait soudain s'ouvrir à chacun. Cet événement n'était pas technique, il touchait à ce que l'humain a de plus propre, la capacité à dire « je », à raconter, à inventer des mondes. Depuis Lascaux jusqu'à nos romans, nos musiques, nos films, cette puissance symbolique semblait n'appartenir qu'à nous. Or voici qu'un artefact nourri de nos propres traces numériques commence à participer à cette activité. Non plus en imitant maladroitement la parole humaine, mais en la prolongeant, en la recomposant à une échelle qui dépasse nos forces individuelles. Un tel basculement aurait pu susciter un débat mondial, une réflexion sur ce que devient une civilisation quand une part de son expression et de sa créativité devient externalisable, une inquiétude peut-être devant ce glissement silencieux de nos facultés les plus essentielles vers des systèmes artificiels, mais rien de tout cela n'est arrivé. À la place, un enthousiasme massif, spontané, l'événement le plus radical de notre époque s'est fondu dans le quotidien sans sursaut politique, sans véritable prise de conscience. Un changement de civilisation passé presque inaperçu, comme si nous n'avions déjà plus les mots ou plus le désir de nommer ce qui nous arrive. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
L'IA, c'est d'abord une formidable révolution technologique et scientifique pour le progrès et au service du progrès. Et donc, c'est d'abord évidemment de la technologie, de la science, l'amélioration des tas de recherches, transformation de beaucoup de secteurs. Mais notre conviction, c'est que ça doit se faire au service de l'humanité et donc pour vivre mieux.
Emmanuel Macron au sommet sur l'intelligence artificielle, c'était en février dernier sur France 24. Bonjour Éric Sadin.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de L'Échappée Le désert de nous-mêmes, quel titre, hein, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Et puis les mêmes éditions de L'Échappée publient en poche un autre ouvrage que vous avez signé, Penser à temps, faire face à l'emprise du numérique. Où étiez-vous pendant le discours du président de la République en février dernier?
J'étais juste en face, au Théâtre de la Concorde, où, face à ce qui m'a semblé relever d'une immense messe propagandiste organisée par Emmanuel Macron et tout le monde de la tech français et mondial, qui réunissait, comme on le sait, une centaine de chefs d'État, qui allaient rivaliser d'annonces d'investissement dans des serveurs, qui contribuent à brûler encore la planète, et quantité d'ingénieurs et d'entrepreneurs de la tech qui nous chantaient des merveilleux lendemains à venir, je me suis dit qu'il n'était pas possible de rester à Paris, les bras croisés, ville de Beaumarchais, de Charles Péguy, d'Albert Camus, de rester les bras croisés. Donc, avec des amis, nous avons organisé un contre-sommet de l'IA qui a fait grand bruit. Vous savez, quand j'étais gamin, j'ai grandi à Antony, et parfois, pour aller à Paris avec mes parents, on passait devant la prison de Fresnes. Et il y avait un café qui s'appelait « Ici, mieux qu'en face ». Alors, c'était beaucoup mieux ici, parce que loin des discours énoncés au futur, nous avions invité des gens à témoigner des conséquences dans les réalités vécues. Et c'était un tout autre discours. C'était l'envers du décor qui était montré dans le monde de l'administration publique, dans le monde du travail, dans le monde de la culture, dans le monde du journalisme. Et c'était une journée extraordinaire. Il y a eu plus de 1500 personnes, et la presse du monde entier en a parlé, et c'était vraiment une entreprise civique et salutaire.
Le 30 novembre 2022, c'est donc il y a tout juste 3 ans, c'est l'anniversaire du lancement de ChatGPT. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, Éric Sadin? On retourne encore un peu plus loin dans le temps.
Alors, cher Mathieu, si vous me posez la question, c'est parce que je vous faisais part d'une petite
absolument,
confession.
Je connais
intime,
la réponse.
Intime. Ouais. Je pensais que ça allait rester entre nous, mais bon, je la rends publique ici à ce micro. C'est vrai. J'ai une témointe, si ça se dit en français, c'est que la nuit du 30 novembre au 1er décembre, je n'en ai pas dormi. Parce que j'ai tout vu venir. C'est pour ça que le titre de mon livre, le désert de nous-mêmes, l'exergue, c'est une phrase de Céline du Voyage au bout de la nuit qui dit « La catastrophe, moi, je peux dire que je l'ai vue venir. » Parce que aujourd'hui, nous vivons trois ans plus tard, c'était la date anniversaire hier, aujourd'hui, c'est la même chose, 30 novembre, 1er décembre, et il est arrivé ce moment. Ça y est, il était temps. Il est arrivé ce moment où nous commençons à être confrontés aux premières grandes conséquences. Nous vient de la Silicon Valley depuis quelques mois le concept de Jobs Apocalypse, c'est-à-dire qui frappe principalement les cols blancs, mais pas que, et qui conduit à des licenciements de masse à l'image de ce qu'a fait Amazon il y a quelques semaines. Pas un jour sans que nous parviennent des témoignages de professeurs qui nous disent qu'ils ne savent plus quel est le sens de leur mission, ils ne savent plus à quoi ils servent, et qu'il y a des foules d'élèves, si on peut les appeler encore ainsi, qui ont renoncé à l'acte d'écrire, dont on doit rappeler que ça participe à la formation de la pensée et du jugement critique. Aujourd'hui, sur Spotify, plus de 30% des morceaux postés sont synthétiques. Et pour terminer cette liste
extrêmement,
extrêmement tragique,
c'est une apocalypse,
sont finalement de plus en plus documentés, vous le savez, cher Mathieu, des phénomènes de dépendance émotionnelle vécus par des adolescents à l'égard de ces systèmes et qui, dans des cas extrêmes, ont conduit à des suicides. Mais je veux juste terminer ce point-là, c'est que, comme vous l'aviez signalé en creux, tout cela, on aurait pu le voir, on aurait pu le pressentir il y a 3 ans. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a vu, à contrario, à l'opposé, des foules de centaines de millions d'individus se sauter à pieds joints sur ces machines parlantes, sans que n'ait été posée la mère de toutes les questions, la mère de toutes les préoccupations, à savoir nos enfants, nos petits-enfants, qui déjà commencent à nous la poser, cette question, et qu'ils valident de plus en plus. Mais papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ? Pourquoi je me réveille à 8h du matin pour apprendre la grammaire, l'orthographe, si des systèmes sur une simple commande de ma part va produire du texte à ma place ? Est-ce qu'on se l'est posé, cette question ? On ne se l'est pas posé. Et en cela, nous avons fait collectivement montre d'une faillite morale collective. Et cette faillite morale collective, à plus d'un titre, nous allons la payer très très cher.
Éric Sadin, ça fait des années que vous réfléchissez et que vous critiquez les technologies numériques et l'emprise qu'elles exercent sur nos vies, sur nos comportements, sur nos libertés. Avec l'avènement justement de l'intelligence artificielle, vous avez de quoi nourrir votre réflexion pendant un sacré bout de temps. Qu'est-ce qui, selon vous d'ailleurs, distingue cette nouvelle génération d'IA des technologies numériques précédentes ?
Alors, merci beaucoup pour cette question qui est capitale. Parce que nous ne cessons depuis quelques années, encore plus depuis un an, vous l'avez remarqué, tout le monde l'a remarqué, de parler d'IA. Or, il est par rigueur méthodologique élémentaire, il est impératif de distinguer l'IA telle qu'elle est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années et ce qui s'est passé depuis 3 ans. J'explique en quelques mots. C'est assez long à expliquer, mais je vais essayer de le faire en quelques instants.
S'il vous plaît.
C'est que la dite intelligence artificielle, même le terme, on peut le mettre en critique, mais on n'a pas le temps là. Je l'ai fait dans un bouquin qui est paru en 2018, qui s'appelait Intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Ce type de technologie, c'est des technologies qui principalement interprètent des situations et envoient des signaux en retour. C'est ça l'intelligence artificielle dans sa dimension que j'appelle cognitive et organisationnelle. Par exemple, à l'exemple de Waze, il y a une infinité d'exemples du même acabit qui interprète l'état du trafic au moment où on l'interroge. Et qu'est-ce qu'il fait ce système ? Il récolte des données à des vitesses et selon des volumes qu'aucun être humain ne pourrait récolter et analyse l'état du trafic et qui dit, par exemple, entre Nancy et Strasbourg, voilà les temps nécessaires pour emprunter tel itinéraire. Mais ça ne fait pas qu'interpréter, ça aussi, ça envoie des signaux d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre.
C'est-à-dire donc ça fait un moment que c'est dans nos
outils.
C'est
un moment que c'est à l'œuvre.
C'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
Hein, absolument, évidemment. C'est ce que j'avais appelé il y a 7 ans le tournant injonctif de la technologie. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des systèmes nous engagent, nous suggèrent, nous recommandent et parfois nous obligent, comme dans les entrepôts Amazon, d'agir de telle manière plutôt que de telle autre, en général en vue d'organiser une hyper-optimisation de la société et d'entraîner une marchandisation intégrale de la vie, des systèmes interprètes de comportement, acheter telle paire de chaussures, prenez tel complément de bien-être, etc. Depuis 3 ans, depuis donc le lancement de ChatGPT et plus largement des IA génératives, il s'est produit sans se substituer à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire ce mouvement d'IA dans leur dimension cognitive et organisationnelle, il s'est passé ce que j'ai appelé, c'est le sous-titre de mon livre, hein, du désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, je n'ai jamais trouvé, depuis 2 ans que j'ai forgé ce concept, de meilleure façon d'expliquer aux personnes qu'est-ce que ça veut dire exactement que d'user d'une formule littérale. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui, jusque-là, veut dire depuis la nuit des temps, comme vous l'avez dit en introduction, cher Mathieu, mobiliser nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir la rupture anthropologique qui est à l'œuvre et comment ne pas voir que c'est la mobilisation de ce qui nous constitue en propre qui est appelée à être évacuée au profit de systèmes qui vont assurer toutes ces tâches.
Ce titre, le désert de nous-mêmes, ça dit beaucoup parce que c'est une sorte d'assèchement finalement que vous décrivez, assèchement de notre cerveau et de notre âme aussi en même temps.
Absolument, assèchement et surtout renoncement de l'usage de nos facultés les plus fondamentales et notamment celle de parler en première personne. C'est-à-dire que vous vous souvenez que les jours qui ont suivi le lancement de ChatGPT, les premiers jours de décembre, moi j'avais tout à fait observé cela, à tel point que j'avais fait une tribune qui était parue dans Le Monde un mois plus tard, où déjà je disais ce que je vais dire là en quelques instants, c'est que des foules disaient « c'est bluffant ChatGPT », et ça l'était, hein, mais il faudrait davantage de développement technologique pour que ça s'apparente à un langage parfaitement humain. C'était en gros ce qui était dit à l'époque, on le dit moins aujourd'hui vu les perfectionnements qui ont eu lieu depuis, mais elle est là notre grande erreur. Elle est là notre immense erreur qui va nous emmener à l'usage d'un langage nécrosé. Parce que ces systèmes, et ça on aurait dû le voir dès le départ, il se trouve que pour ma part je me devais de faire ce travail d'analyse, c'est que ces systèmes vont moissonner tous les corpus numérisés existants depuis la nuit des temps, numérisés, et qu'ils les soumettent, en vue de les soumettre, à des traitements statistiques et mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce qui est recherché par ces systèmes, ce sont deux principes cardinaux, c'est la récurrence et la corrélation. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous mettez un mot, par exemple, voiture, les mots de route ou de volant, par exemple, je donne ça comme exemple, ne seront jamais très loin. C'est-à-dire, s'il y a A, il y aura B, et s'il y a B, il y aura C. C'est-à-dire à l'intérieur d'une dimension de corrélation probabiliste. C'est-à-dire qu'en gros, ça correspond à des statistiques, à des formules qui ont déjà eu lieu. Donc on parle de systèmes génératifs, en réalité, ce sont des systèmes qui ne font que reproduire des formules qui ont déjà eu lieu. Mais ça, on est incapable de le voir, parce que c'est noyé dans les flots du langage, dans les flots des textes. Et en réalité, cela est à l'opposé absolu de la façon dont nous jouons depuis la nuit des temps, à l'opposé absolu dont nous jouons avec le langage, parce que nous, la façon dont nous utilisons les mots, et ce que je fais à l'instant, nous procédons par, non pas par corrélation, par association. C'est-à-dire, personne ne fait n'a des idées identiques, et notre élocution dépend de nos idées. Et donc, chacun fait des associations identiques, qui fait que son élocution relève d'une absolue subjectivité, mais j'irai encore plus loin. Le mot que je vais dire, là, Mathieu, le mot que je vais dire à l'instant, dans une seconde, je ne sais pas lequel c'est. Et pourquoi je ne sais pas lequel c'est? Parce que nous n'entretenons pas au langage un rapport probabiliste, mais indéterministe. Elle est là, la liberté humaine, l'inventivité humaine, dans notre rapport au langage. Et donc, d'un côté, il y a ce langage nécrosé, produit par ce que j'appelle le capitalisme linguistique, schématique, mathématisé, qui voudrait s'approcher d'une sorte de fantasme, de perfection. Et notre langage fait vecteur de liberté, quand même, de liberté humaine, de pluralité, de contradiction. Et donc, nous allons nous défaire de cette puissance, de cet élan vital qui témoigne de notre créativité au quotidien, pour aller vers ce langage nécrosé que j'appelle Thanatologos, le langage de la mort. Comment avons-nous pu nous faire part, preuve d'une telle irresponsabilité et d'une telle passion pour l'utilité pratique?
Eh bien, dis donc, c'est pas joyeux tout ça, effectivement, hein, autour de cette technologie de l'intelligence artificielle. Vous dites d'ailleurs que la société n'a pas mesuré la gravité bien historique sûr de l'événement. Pourquoi ce décalage, d'ailleurs, selon vous?
Ah, j'ai une explication toute simple. Je crois que l'utilitarisme qui est à l'œuvre depuis nos sociétés, qui est devenu tellement la norme, qu'elle a fini par infiltrer nos cerveaux très malades, n'est-ce pas, de l'utilitarisme, c'est-à-dire de ne prôner que par dimension pratique, sans voir l'étendue des conséquences civilisationnelles. Et nous allons de plus en plus être confrontés, et ce n'est que le début de l'histoire. Et ce que je crois, c'est qu'il nous reste une fenêtre de 3 ans encore pour agir. Je m'expliquerai
tout à l'heure.
Avant que oui, nous ne soyons plus réduits qu'à l'état de coquilles vides et de masses d'inutiles.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Et au train où vont les choses, on peut se demander quels seront les domaines de notre existence qui lui échapperont. De chez vous, vous pourrez aussi interroger la machine. Par exemple, pour consulter votre compte en banque. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie.
On va lui demander où est mort Napoléon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. C'est trop vraiment bien, hein ?
Voilà un aperçu du monde de demain. Et peut-être regretterez-vous le temps de l'ordinateur romantique.
Extrait d'un reportage dans le journal télévisé de 1970, Archives INA, Éric Sadin, vous qui publiez aux éditions de l'Échappée le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Vous le disiez tout à l'heure, en prélude, nous sommes aujourd'hui en train de vivre une catastrophe. Quelle est cette catastrophe vraiment, en fait, pour bien la décrire, qu'est-ce que vous considérez comme étant absolument catastrophique
alors,
à cause de l'IA ?
Elle est à plusieurs titres, il faut les décliner. Déjà, on en a parlé sur ce pseudo-langage. Et puis il y a d'autres points que je suppose qu'on aura encore le temps de parler, notamment le régime de la représentation et le travail, notamment les métiers de service.
Mais s'il fallait établir une hiérarchie dans ces catastrophes...
Le renoncement de l'usage de nos facultés les plus fondamentales. C'est pour ça que j'ai parlé de coquille vide tout à l'heure. Mm-hmm. Et tout à l'heure, à propos de ce que j'appelle le pseudo-langage ou le thanatologos, le langage de la mort, qui est un langage homogène, qui va de plus en plus occuper notre environnement informationnel. Ce n'est pas que ça. C'est aussi des systèmes qui vont nous parler en fonction de notre propre langage, qui va analyser notre façon de nous adresser à ces systèmes et qui vont nous parler en continu, de plus en plus en continu, en vue d'opérer des jeux d'influence sournois. Et ce, à deux, en vue de deux visées. La première, c'est une fois encore de nous dire « Je sais que tu es fatigué, je te conseille de telle recette alimentaire », en nous mettant en lien avec des entreprises et tout à l'avenant, mais aussi en vue d'opérer des jeux d'influence idéologique qui vont être utilisés par des systèmes politiques généralement extrêmes ou par des clans idéologiques, en vue d'opérer des jeux très insidieux d'influence auprès d'êtres d'autant plus vulnérables qui se trouvent seuls face à des écrans. Est-ce que ça, on l'a vu ? On commence à le voir, et qui va jusqu'à des adolescents qui leur confient leurs états d'âme. Donc il y a une sorte d'anthropomorphisation de rapport au système qui permet des jeux de manipulation sur les consciences. Donc on va voir l'étendue au cours des années à venir.
Ouais, vous dites que ces agents conversationnels possèdent une aura d'omniscience, en fait.
Ah bah, évidemment.
C'est ça. Hein. Ils
évidemment.
Peuvent guider nos choix, ils peuvent orienter nos achats et influencer tout un tas de choses
individus.
Hein.
Bien sûr, pour la simple raison qu'ils sont dotés d'un statut d'omniscience, avec le fait que c'est en sophistication sans cesse croissante. C'est-à-dire qu'ils nous disent la vérité, et à partir du moment où des systèmes nous disent la vérité, on est des esclaves de la vérité qui nous est transmise soit par des entreprises privées, soit par des clans idéologiques.
Quel est l'impact de l'IA sur la démocratie ? Est-ce qu'on arrive à l'estimer aujourd'hui précisément, et la façon dont elle peut contribuer à son affaiblissement ?
Alors ça, nous aurions dû le voir une fois encore, plutôt que d'organiser un sommet mondial de l'IA en rivalisant d'annonces d'investissement. Cela, nous aurions dû nous en occuper il y a 3 ans. Je vous donne un exemple, cher Mathieu, d'une gravité extrême, hein, à propos de la démocratie,
oui.
et du vivre ensemble, et de nos rapports de compréhension interpersonnelle. Nous savons que ces systèmes ne font pas que produire du pseudo-langage, ils produisent sur une simple instruction de notre part des images, des vidéos, du son, des paroles. Et vous vous souvenez, il y a 2 ans, vous vous souvenez que les images fabriquées par des systèmes d'IA génératifs, on savait les distinguer. Mmh. Hein, c'était assez grossier. Le pape avec la doudoune en 2023, c'était grossier. Macron interpellé par des manifestants auprès de poubelles. Vous vous souvenez de ces images, hein, que tout le monde a vues, hein. C'était assez grossier, on le voyait. Il y a 2 ans, il y a 1 an, c'était déjà moins le cas. Et là, automne 2025, ça devient très compliqué. Et je vous garantis que d'ici 2 ans, on y verra plus rien. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Parce que nous entrons dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée, c'est-à-dire d'un moment où nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni la nature d'une image.
D'un texte aussi. Hein.
Et d'un texte.
Ou d'une voix.
Ou d'une voix, la vôtre, que je peux dupliquer. Et cela, c'est d'une extrême gravité parce que la société, ce n'est pas que des principes communs. C'est des référents communs aussi. Faute de quoi, on ne se comprend plus. Si quand vous dites, Mathieu, vert, Moi, je comprends tout à fait autre chose. On est dans des rapports de surdité. Donc, ce que je crois, c'est que nous entrons dans la fin de l'ère de la post-vérité. On n'est plus, ou des fake news, on n'est plus du tout dans ça. On est dans ce que j'appelle, ce que j'explique dans mon livre, l'ère de l'image fantasmatique. C'est-à-dire que chacun va produire des pseudo-images qui correspondent à ses souhaits, à ses lubies, voire à ses folies, et qui va faire quoi ? Qui va l'insérer dans notre champ de représentation collective, avec le fait que, très pernicieux, que ça entre dans le domaine de l'envisageable. C'est ça qui est très pernicieux. Mmh. Je vous donne un exemple, la vidéo de Trump et de Netanyahou qui étaient allongés sur des transats dans Gaza, aux aires de Riviera. Vous vous souvenez de cette vidéo ?
Oui.
C'est ni vrai ni faux. C'est une image fantasmatique qui fait que ça devient envisageable. Et qu'est-ce que ça va introduire pour terminer cela ? Qu'est-ce que ça va entraîner ? Le fait d'un rapport au réel dénué de toute limite, c'est-à-dire toutes nos représentations, on va les insérer dans notre représentation collective, et qui donc, de façon corollaire, j'ai envie de dire dans le réel, en dur, va induire des continuelles impressions d'insatisfaction de la part de foule. Donc c'est encore un vecteur supplémentaire qui est introduit dans notre société, ou du moins ce qu'il en reste.
Alors il y a plein de questions évidemment qui sont intéressantes, la question du travail, on va en parler dans un instant, mais également l'émergence de ce que vous appelez un art sans signataire. Donc ça, c'est quelque chose que vous redoutez, Éric Sadin. On va d'abord écouter, pour en parler, les scénaristes d'Hollywood qui faisaient grève et manifestaient en 2023.
Mai 2023.
Voilà ce qu'ils disaient.
On sait que c'est en train d'arriver. C'est nous qui avons imaginé Terminator, alors on sait que ça va arriver, tôt ou tard.
Je crains qu'ils ne délèguent de plus en plus de choses à l'intelligence artificielle dans le futur. Ça donnera des films standardisés que personne ne veut vraiment voir. Ce sera l'équivalent du fast-food à la télé.
Ce que je constate, c'est que l'intelligence artificielle sait prendre l'univers de Wes Anderson et celui de Star Wars et les mélanger, mais ce que je ne l'ai pas encore vu faire, et je ne suis pas sûr qu'elle puisse le faire un jour, c'est de créer quelque chose de vraiment nouveau, mais qui touche l'être humain.
Éric Sadin, la grève des scénaristes d'Hollywood au sujet de l'intelligence artificielle, du remplacement au fond des talents aussi et créatifs face à la machine. Donc une création sans ancrage humain.
Absolument. J'étais admiratif, hein. J'étais totalement admiratif en mai 2023 de la mobilisation qu'il y a eu faite par les scénaristes d'Hollywood. Voilà des gens qui ont vu tôt les choses. Il y a un très grand marqueur de l'époque qui est apparu. Moi, je le tiens pour un très grand marqueur de l'époque qui est apparu il y a quelques semaines. C'est peut-être, en avez-vous entendu parler, Mathieu, des mini-séries chinoises, dont les scripts, c'est-à-dire les scénarios, justement. Les personnages, on ne sait même plus comment les appeler, hein, ces figurines, on ne sait même plus comment les appeler. Les décors, les lumières, les voix sont générées par des systèmes. Il ne reste plus que le montage qui est fait par des humains. On se demande pourquoi, avant quelques années, ou peut-être quelques mois. Voilà un puissant marqueur de ce qui s'annonce, c'est-à-dire un art sans signataire et désincarné, délivré de ses corps. Parce que nous avons déroulé toute une série de conséquences. Le monde de la culture, ce qui va se passer, c'est un ouragan terrible. C'est-à-dire que ces quantités de savoir-faire précieux qui participent de la richesse de la société, traducteurs, la liste est très longue, je vais juste donner quelques métiers sans que la liste ne soit exhaustive, traducteurs littéraires, comédiens doubleurs, chefs opérateurs, photographes, graphistes,
scénaristes,
compositeurs de musique. Comment est-il possible que nous restions les bras croisés face à cela ? Parce que l'art et la culture, c'est toute une vision du monde, en réalité. C'est le fait qu'autrui, dans ce qu'il a de grand, dans ce qu'il a de singulier, de subjectif, a quelque chose de singulier à proposer à la communauté des êtres, et que nous témoignons d'une curiosité à l'égard de cette subjectivité qui est porteuse d'une richesse. Or, nous allons vers quoi, là ? Nous allons vers... Et ça, c'est un cauchemar terrible. Quand vous parlez de catastrophe, là, je vais vous parler d'un cauchemar. Nous allons vers ce qui est déjà appelé self-cinéma, self-musique, self-littérature. C'est-à-dire chacun, uniquement rabattu à ses propres souhaits, à sa propre vision, on peut dire étriquée des choses, c'est-à-dire sans appétit pour l'altérité, va faire sa petite fiction qui correspond à ses souhaits. Par exemple, une fille ou un petit garçon de 4-5 ans, on va lui dire un soir, avant le dîner, ce soir on va découvrir Buster Keaton ou Walt Disney. Et la petite fille ou le petit garçon va dire « Ah non, papa, maman, une copine à l'école m'a dit qu'on lui a fait son propre petit film. » Alors les parents vont s'exécuter, on va dire « Alors tu veux quoi, un prince charmant ? Tu veux qu'il y ait une biche ou un chien, un lac ou une montagne ?» Et donc, au lieu de découvrir l'altérité, au lieu de découvrir Tex Avery, elle va être repliée à ses propres souhaits et à ses propres envies.
Mais ça, c'était déjà le cas avec les réseaux sociaux qui nous enfermaient, qui nous enferment toujours, d'ailleurs, dans des bulles informationnelles. Absolument. Selon nos choix, et les algorithmes ont très bien compris ça.
Absolument.
Donc ça, l'IA pousse ça au maximum, en fait.
Absolument, elle pousse au maximum, c'est très juste ce que vous dites, le paradigme terrible qui tient en un mot, c'est l'éviction d'autrui. C'est-à-dire que de plus en plus, nous allons moins avoir besoin d'autrui pour n'entretenir que des rapports personnalisés au système qui vont nous guider en toutes circonstances au cours de notre quotidien. Et là, c'est une catastrophe sociétale.
Alors,
c'est-à-dire
justement,
ce qui nous tient en commun. C'est-à-dire la société, c'est des liens d'interdépendance. Et il y a aussi dans la société le fait que l'autre apporte des choses que moi, je ne connais pas ou que je suis incapable de produire. C'est aussi ça, la culture. Et demander à des systèmes ma propre petite musique, comment ne pas voir qu'il y a toute une vision du monde qui est en train de s'écrouler actuellement.
Alors, il y a aussi derrière tous les exemples que vous avez cités, évidemment, la question du travail, parce que vous dites qu'on assiste à ce sujet à une rupture inédite. C'est-à-dire que là, on va assister à un effondrement de beaucoup de métiers, mais seront-ils remplacés par d'autres métiers ou pas ?
Alors, concernant le travail, qui est une immense question qui nous regarde tous, nous sommes confrontés à une difficulté, c'est-à-dire à une modalité de représentation. Je vous explique en quelques mots, ça va être très simple. Hein. C'est-à-dire que nos modalités de représentation, quand je dis « nos », c'est les responsables politiques, c'est les think tanks, c'est les instituts universitaires, mais c'est le monde, c'est les foules de personnes en général, nos représentations sont fondées sur le principe de la destruction créatrice théorisée par l'économiste et philosophe Joseph Schumpeter à la fin des années 30, qui avait vu quelque chose de très fort à la fin des années 30, qui avait vu le fait que un certain type de développement technologique entraînait des destructions d'emplois, mais pour voir quasi mécaniquement et aussi organiquement soit des mises au chômage, soit de la retraite anticipée, soit des reversements vers des emplois nouvellement créés, et généralement à partir de cette période, de services. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des décennies qui ont suivi, et notamment au tournant des années 80, qui est la période de la robotisation des chaînes automobiles et des grandes manufactures. Mais cela, on continue, comme ça s'est toujours vérifié, on continue de croire que c'est à l'œuvre, jusqu'à Philippe Aguillon, prix de la Banque de Suède et non pas Nobel, qui se trompe totalement sur cela puisqu'il est dans des logiques de destruction créatrice. Pour quelle raison Schumpeter est mort une deuxième fois le 30 novembre 2022. Pour la simple raison que qu'est-ce qui caractérise le travail aujourd'hui dans notre monde contemporain, dans la quasi-totalité des territoires de la planète, c'est qu'entre 70 et 80% des métiers relèvent des métiers de service. Et qu'est-ce qui caractérise les métiers de service, c'est que pour la plupart d'entre eux, justement, d'où l'importance des concepts, ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Et voilà des systèmes qui, à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, de façon prétendument plus fiable, j'insiste toujours sur l'adverbe prétendument plus fiable, et à terme, à moindre coût, vont assurer l'ensemble de ces tâches. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient ? Et il n'y aura pas de reversement vers un secteur quaternaire. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que celui-ci n'existe pas. À moins de nous donner le revenu minimum, c'est-à-dire nous réduire à des mendiants et à des pêcheurs à la ligne, comme ce que proposent tous les barons de la tech. Est-ce que c'est vraiment de ce monde que nous voulons ?
France Inter. La Terre au carré.
Quelqu'un comme Sam Altman, qui est donc un des cofondateurs d'OpenAI, est un peu ambigu. Il crée cette technologie dont il pense qu'elle pourrait à terme nous renverser. D'ailleurs, Sam Altman est quelqu'un qui se promène aussi avec son sac à dos au cas où la fin du monde arriverait. Hein. C'est un survivaliste. On a une nouvelle génération de leaders technologiques qui, contrairement aux leaders technologiques des industries classiques, alimentent l'ambiguïté vis-à-vis de leur propre créature. Il nous dit finalement, je suis honnête avec vous. Donc maintenant vous avez ça, c'est votre responsabilité de faire attention.
La voix de Ian Ferguson, il est sociologue et spécialiste de l'IA dans le dessous des images sur Arte en mai dernier. Éric Sadin, vous qui publiez aux éditions de l'Échappée ce désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'à votre avis, cette technologie pourrait renverser notre humanité ?
Renverser, vous savez, il y a beaucoup de délires sur c'est aussi grave que c'est une menace.
Quand on vous entend, franchement,
non, mais y a beaucoup
on se dit qu'on n'est pas loin quand même.
Non, il y a beaucoup de fantasmes et je crois qu'il faut voir les choses avec factualité. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler d'une pétition totalement grotesque qui a eu lieu à l'ONU, un appel à une pétition à l'ONU il y a un mois, ou la quasi-totalité des personnes qui ont lancé cette pétition, c'est des ingénieurs, des entrepreneurs de la tech, c'est-à-dire qui ont travaillé à tout cela depuis des années, et donc dans une responsabilité totale, d'un coup se réveillent quand la maison brûle, ou quand ils commencent à avoir une conscience de certains risques, mais ils se trompent sur les risques. C'est toujours, c'est Terminator, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les systèmes, c'est aussi grave qu'une catastrophe nucléaire, mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Ce qui est la gravité qui nous regarde, c'est nous, c'est vous, moi, nous tous, dans ce que nous sommes, dans ce qui nous constitue en propre, c'est-à-dire que nous sommes des êtres constitués de facultés spécifiques qui participent de notre épanouissement, qui participent de notre activité. Vous savez, quand on parlait du travail tout à l'heure, Schumpeter, les remplacements des métiers, notamment on a parlé des entreprises dans la robotisation, etc., sur les chaînes de montage, c'était des métiers à haute pénibilité. Donc on peut dire que c'était pour la bonne cause, la technologisation des entreprises. Là, il est question d'emplois à haute compétence cognitive, qui ont souvent requis des longues et coûteuses études, qui produisent souvent du plaisir à la tâche, de la reconnaissance sociale, de l'estime de soi, et aussi, chose très importante, à quelques années du Covid, de la crise du Covid, dont on s'est aperçu qu'on en avait tant souffert de cela, de ce manque, c'est-à-dire ça produit aussi des effets de sociabilité.
Et du lien, donc. Et du lien entre les humains.
C'est toute une vision du monde, comme ce qu'on a dit sur la culture. Donc en réalité, quand on parle de menaces, des IA génératives, je précise que c'est IA génératives, il faut bien faire le distinguo, c'est en réalité, c'est pas une menace comme ça, comme un ouragan qui va s'abattre du jour au lendemain sur la planète. Non, c'est une menace insidieuse sur ce qui nous constitue fondamentalement, c'est-à-dire des aides de créativité, d'inventivité.
On parlait tout à l'heure du sommet qui avait été organisé par le président de la République là, en février dernier autour de l'IA. Selon vous, il ne faudrait pas du tout investir là-dedans aujourd'hui ?
Alors,
quelle est votre position ? Parce que quand même, il y a aussi un marché à prendre, non ?
Alors, vous savez, le grand poison actuellement, c'est la course technologique, géopolitique à l'IA. Hein, c'est-à-dire les Chinois investissent énormément. Donc avant le sommet de l'IA, par exemple, Donald Trump a annoncé le projet Stargate de 600 milliards de dollars qui était de l'investissement dans les serveurs. C'était pas l'argent de l'État américain, mais qui avait regroupé toutes les entreprises. Ces serveurs qui vont encore plus brûler la planète. Hein, c'est-à-dire la consommation énergétique des serveurs, elle est gigantesque. Hein. Et que fait Emmanuel Macron ? Il fait la même chose la veille du sommet de l'IA. Il réunit tous les pontes françaises de la tech et annonce encore plus d'investissements. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est ça que je voudrais que le public de votre émission, Mathieu, comprenne, c'est qu'il faut distinguer IA et IA générative. Vous savez, dans l'IA, il y a des choses abjectes, comme des manufacturiers dans des entrepôts qui sont guidés par des systèmes d'IA qui interprètent justement en temps réel leur localisation et qui leur enjoint qui les oblige d'aller chercher tel produit dans telle armoire pour les déposer à telle vitesse dans telle palette, les réduisant à des robots de chair et de sang. Mais ça permet aussi, par exemple, la constitution, l'élaboration de molécules pharmaceutiques. Ça permet...
On va en parler, il y a des questions là-dessus.
Voilà, ça permet, par exemple, de perfectionnement des modèles aérodynamiques.
Donc ça, vous n'y êtes pas opposé.
Là, il faut faire le tri. C'est beaucoup plus compliqué dans l'IA. Ce que je dis, moi, ce que j'explique dans mon livre, et j'explique raison les unes après les autres, l'IA générative, c'est indéfendable de A à Z. C'est ça qui... c'est là qu'il faut faire le distinguo.
Éric Sadin, il y a beaucoup de questions pour vous, j'aimerais que vous y répondiez dans un instant. Vous affirmez qu'il nous reste 2 ou 3 ans pour agir. Pour agir sur quoi d'abord ? Et qu'est-ce qu'il faut entreprendre selon vous en priorité alors, pour éviter la catastrophe ?
Alors, je crois que nous très avons... Vite. Je crois, en quelques mots, puisque vous m'y obligez, cher Mathieu, je crois que nous avons fait preuve, je l'ai dit, d'une passivité. Allez, cher Mathieu, dans les écoles aujourd'hui, allez-y. Allez voir les profs livrés à eux-mêmes, qui savent même plus, on l'a dit, le sens de leur mission, avec des proviseurs qui laissent libre cours. Il n'y a eu aucune charte, aucune assise sur l'éducation. Sinon, des ministres qui disent l'enfant encore plus de l'IA, c'est-à-dire désapprendre les enfants de l'acte de l'écriture. Dans le monde du travail, il commence à y avoir des procédés de tests d'usage de systèmes d'IA sans que beaucoup le monde du travail se mobilise. Je vous renvoie quand même à un cas de figure très intéressant. C'est au mois de mai dernier, le groupe de presse InfoPro Digital, vous savez qu'il y a la Gazette des Communes, le Moniteur, ils ont dit, 200 journalistes, C'est des cas concrets, là. Je parle de cas concrets, hein, pas de fin du monde et de Terminator, de cas extrêmement concrets. Ils ont vu que des systèmes que les responsables mettaient en place mettaient en péril, et en tous les cas, mettaient en péril leur métier et surtout dégradaient l'usage de leur profession. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sans rien attendre du législateur, ils sont allés au tribunal. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le tribunal de Créteil, en mai 2025, leur a donné raison. Il est indéniable que ces systèmes dégradent la qualité du travail de tout ce personnel. Et ça a fait quoi ? Œuvre de jurisprudence. Donc il revient à toute la société, à toutes les échelles de la société, de nous mobiliser, là où nous considérons que ça bafoue nos principes et ça bafoue la pérennité de nos métiers, de nos savoir-faire.
Et c'est ce que vous ferez demain d'ailleurs à l'UNESCO, appel mondial que vous allez lancer à l'occasion de la journée des futurs dont vous allez faire la conférence principale. Donc c'est aussi dans cette idée de dire, bah, il nous reste encore un petit peu de temps mais il faut agir là quand même. Hein.
Alors demain, merci de l'évoquer, demain j'ouvrirai à 9h30 à la suite du discours du nouveau président une journée prospective de l'UNESCO par une conférence magistrale. Et je vais décrire la situation et je vais en appeler un appel mondial pour la sauvegarde des œuvres de l'esprit, des métiers de la culture, au cœur institutionnel de la préservation et la célébration du patrimoine et des œuvres culturelles, c'est-à-dire l'UNESCO à Paris.
Allez, on passe aux questions. Éric Sadin, pour vous, beaucoup de messages, on va essayer de faire des réponses très courtes. Jean-Pierre nous dit combien de cancers du sein, de mélanomes potentiellement mortels dépistés grâce à l'IA. La dialectique, c'est formidable, vive le Moyen-Âge, dit-il.
Oui, mais alors ça, c'est toujours les arguments spécieux. Alors, je dois juste répondre à ce monsieur en quelques mots. D'abord, on dit beaucoup d'erreurs concernant les systèmes de diagnostic par des systèmes, comme si les médecins ne faisaient que des erreurs, vous comprenez. Mon cousin est chef radiologiste à Rothschild.
Ça le rend dingue.
Non, mais vous savez, il me dit, ces systèmes ne sert à rien, sinon que ça coûte une fortune, on ferait mieux de s'occuper des infirmières et du personnel d'accueil et de toute la logistique dans l'hôpital. Certes, il y a parfois des systèmes qui permettent de diagnostiquer un peu mieux, enfin plus précisément, et encore c'est loin d'être certain, mais là ce monsieur parle d'une chose. Là, on parle d'IA tel qu'on en a parlé au début de l'émission, Mathieu. Moi, je parle d'IA générative, c'est-à-dire ces systèmes qui fabriquent des symboles et desquels on va attendre toute la vérité du monde. Ce sont deux choses différentes. Il est temps de distinguer IA et IA générative pour bien avoir une position critique et analytique beaucoup plus informée, beaucoup plus claire.
Pierre-Olivier dit, comment faire pour résister aux injonctions en entreprise nous demandant d'utiliser l'intelligence artificielle ?
Alors, comment s'appelle-t-il, ce monsieur ?
Pierre-Olivier.
Alors, Pierre-Olivier, merci beaucoup pour votre question. C'est moi qui vous pose la question. C'est moi qui vous pose la question. Il est temps que dans les entreprises, là où le personnel se sent bafoué, se sent démuni de ses savoir-faire, qu'il y ait une mobilisation. En général, quand on se mobilise seul, ça ne produit pas grand-chose. En groupe, il y ait de la mobilisation, que les syndicats se saisissent de cela et qu'il y ait des chartes qui soient faites. Qu'est-ce que ça veut dire, des chartes ? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on refuse de faire. Or, il n'y a pas suffisamment de chartes qui sont écrites, qui seraient comme la Bible pour les personnels dans le monde du travail.
Violette nous dit, je ressens la profonde déception émotionnelle de votre invité. N'y a-t-il pas lieu alors de faire le constat de l'inanité de notre humanité qui a donné plein de pouvoir à ses leaders les plus immondes, moralement parlant ? Ainsi, si les humains doivent disparaître, ne doit-on pas s'en réjouir ?
Écoutez, je ne peux pas partager cela. Moi, je crois au vivant et au génie qui est logé en chacun d'entre nous, qu'on doit célébrer. Vous savez, on parle beaucoup, et vous ne cessez dans votre émission, Mathieu, de parler du vivant. Je crois qu'on ne peut pas simplement se soucier de défendre le vivant dans son ensemble. Il faut, en amont, vous le reconnaîtrez, défendre le vivant qui est logé en chacun d'entre nous, duquel tout dépend. Et je vais utiliser une formule. L'heure n'est plus à nous soucier du réchauffement climatique, mais à la glaciation de nos facultés. C'est-à-dire, sans lesquelles, en aucune manière, nous pourrons défendre le vivant dans son ensemble, qui doit être une des tâches majeures qui nous regarde dans les années à venir, au risque de tomber dans une humanité absente à elle-même.
Dans un désert, puisque c'est le titre de votre livre, Le désert de nous-mêmes, aux éditions de L'Échappée, le tournant intellectuel et créatif de l'IA, Éric Sadin, et puis également, qui ressort aujourd'hui, ce sont des chroniques pensées à temps, toujours aux éditions de L'Échappée. Merci beaucoup à vous d'être venu dans
Merci
cette émission.
À vous.